Avec le CCFD Terre Solidaire en route vers l'agroécologie, c'est des chroniques que nous animons à Radio Présence. Et depuis la semaine dernière, j'ai le grand plaisir d'accueillir Luc Ducerm. Bonjour Luc.
Bonjour.
Vous êtes à la tête avec votre frère, c'est surtout, oui. On vous nous l'a dit la semaine dernière, une histoire de famille. Le camping qui a le label Eco Village Vacances.
On va... Alors, ce n'est pas tout à fait un label. On a un label Tourisme Handicap, ça c'est un label. Et en fait, c'est une façon de vivre les vacances. L'Eco Village, ce n'est pas encore un label.
Ce n'est pas encore un label, mais peut-être que ça le deviendra. Merci voilà. De m'avoir rectifié. On parlait la semaine dernière en se quittant de cette richesse. Vous dites que c'est vraiment une richesse d'avoir cette réserve naturelle du Pibest à Houillettes et également d'avoir la chance d'avoir une zone humide à côté du lac de Lourdes qu'on appelle la tourbière, si je me trompe. Et qui est protégée par Natura 2000.
Oui, il y a actuellement des vaches qui entretiennent, puisqu'en fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait toujours eu des vaches qui entretenaient. Et donc, il y a un paysan qui s'est positionné et qui met à l'année des vaches pour entretenir cette tourbière. Comme quoi, il y a une relation entre protection de la nature et le milieu paysan, oui. Dont on parlait un petit peu la semaine dernière.
Et une tourbière, pour en deux mots, c'est pour les gens qui découvrirent un peu ce mot.
Alors, c'est
et pourquoi c'est une richesse, une tourbière?
C'est l'équilibre de la nature, c'est-à-dire qu'il y a des réservoirs d'eau et qui donnent lieu à des espèces qui peuvent vivre sur cette nature. Et on s'est rendu compte que lorsqu'il y avait des travaux, notamment de malencontreux de terrassement sur ces lieux-là, eh bien, on avait des conséquences beaucoup plus loin, quoi. Donc, c'est ces équilibres d'eau, ces réservoirs d'eau donnent lieu à des équilibres des kilomètres plus loin, quoi. Voilà. Donc, pour moi, sans que ce soit trop scientifique, oui. Pour les auditeurs, c'est l'équilibre de la nature qui se joue là, dans ces zones humides, quoi.
Alors, il y a un sentier qui fait le tour du lac de Lourdes, donc on passe à côté de cette tourbière. Oui. Et en tant que lourdais, je dirais qu'on n'y passe sans y faire aucunement attention. C'est une grave erreur pour vous.
Alors, il y a des animateurs, je pense à Julien, dans la réserve naturelle, qui peuvent aussi accompagner des randonnées dans ces milieux humides. Et il y a vraiment beaucoup d'humidité dans les génies, le côté de la forêt domaniale. C'est impressionnant parce que c'est des mousses là, c'est comme dans les films d'horreur, un petit peu, pendant l'hiver, on a ça. Et elles sont accessibles l'été et elles sont animées par des accompagnateurs de montagne. Donc, comment les visiter? Prendre des accompagnateurs de montagne qui sont formés par la réserve. J'avais mis ça en place dès le début en tant que président. Et donc, ils ont des informations sur l'évolution des espèces dans la réserve, donc ils pourront informer de façon précise les touristes ou les locaux qui veulent découvrir cette réserve et toutes les zones humides. Et puis après, il y a Julien qui fait aussi, qui est accompagnateur de montagne, mais qui est payé par la réserve, qui fait aussi des animations gratuites. Vous pourrez voir sur le site de la réserve naturelle directement les dates.
Alors, on vient de vivre quelque chose d'exceptionnel, cette pandémie. Ça a mis à l'arrêt le monde entier. Ce virus que nous ne voit pas nous a mis KO. Lourdes, on sait, a une monoculture touristique à travers ses pèlerinages. Et en échangeant, à vous écouter, on pourrait venir dans le coin, non pas tout. Pour venir à Lourdes, on peut y venir prier, mais vous nous dites, il ne faut pas s'arrêter là. On a deux richesses, hein, vous le répétez fort, le Pibest, cette réserve naturelle et ces zones humides. Et vous dites, il faut faire attention à cette monoculture. Vous l'avez vécu d'ailleurs vous-même à titre personnel, cette monoculture. Quand vous créez votre camping, vous êtes aperçu que vous avez une expression assez sympathique, c'est le touriste waouh. Pourquoi le touriste waouh? C'est quoi un touriste waouh?
Enfin, moi j'aime bien rechercher le touriste waouh, parce qu'en fait c'est le client qui arrive et qui, qui, ce qu'il recherche, eh bien, il est content rien qu'en étant, en admirant le contemplatif. Eh bien, voilà, c'est une dimension spirituelle, je dirais, le contemplatif. Devant ces grosses masses de montagnes, eh bien, le client voit, c'est le contemplatif. Voilà. Alors, c'est vrai que nous, on a vécu en 2008, lorsqu'il y a eu la crise, les Espagnols qui venaient l'hiver, vraiment, il y avait deux ou trois bus qui venaient dans le village, quoi, chaque week-end, quoi. Et là, ça s'est arrêté net. Et donc, cette mono-clientèle de l'hiver en 2008, eh bien...
Ils venaient faire du ski, c'est
ça ? Ils venaient faire du ski, ouais. Et ils étaient vraiment passionnés et passionnants. Et... bon, voilà, ça s'est arrêté net. En 2015, lorsque on a eu les attentats en France et l'état d'urgence, la clientèle hollandaise a diminué vraiment de façon drastique. On était allé chercher, parce qu'il y a eu un changement dans notre vallée avec cette fameuse deux fois deux voies. Donc les clients ne passaient plus...
Vous parliez de clientèle cueillette, hein, c'est-à-dire que pour aller vers Luz, hein, ou vers les stations, ouais. On était obligé de passer par devant votre porte, voilà. par les villages.
Tous les campings et tous les gîtes se sont mis autour de cette route nationale, et cette route nationale était déviée par la deux fois deux voies.
Oui.
Donc, on a essayé d'aller à la rencontre de nos futurs clients, quoi. Donc, on est allé dans les salons. À l'époque, le salon fonctionnait. Maintenant, ça fonctionne beaucoup moins. Donc, on a appris la langue néerlandaise et on a essayé de comprendre un petit peu les attentes de cette clientèle. Et pendant 15 ans, nous sommes allés faire la promotion des vallées et du département, je dirais, parce que tout le monde ne venait pas dans notre établissement. Je téléphonais des fois à des hôtels, de Lourdes ou d'ailleurs, puisque j'avais des demandes en direct, quoi, voilà. Et cette clientèle s'est arrêtée et nous a aidés à préparer un peu cette crise dont tu parles, Philippe. Ouais. C'est que, heureusement qu'on a eu cet arrêt de cette mono-clientèle en 2015, ça nous a préparé à celle de 2020, voilà, qui est locale maintenant, voilà. Et donc, je pense qu'il faut arriver à diversifier le plus possible notre clientèle, même quand on a la facilité d'arriver à cette clientèle waouh, où on fait correspondre vraiment les attentes et la réalité de ce qu'on peut offrir à nos clients, quoi. Et c'est vrai que quand elle vient, on est content. Il y a une joie intense de les recevoir. Mais il ne faut pas oublier qu'il faut diversifier pour éviter cette cassure de cette mono-clientèle qu'il y a à Lourdes et qu'il peut y avoir aussi dans nos vallées. On l'a vécu précédemment.
Parce que vous travaillez à l'époque, donc l'hiver avec les Espagnols qui venaient faire du ski et l'été, enfin la période estivale, je dirais, avec les Hollandais qui venaient régulièrement chez vous.
Voilà.
Et pendant quelques temps, on s'est contenté de ça. Tout allait très bien.
Oui.
Vous me le disiez, les Hollandais, c'est plat, quand ils viennent ici, waouh, c'est magnifique, ils voient les Pyrénées, ils sont émerveillés, pouvoir d'achat un petit peu plus aisé peut-être que d'autres pays, et du coup tout allait bien.
Oui.
Et puis 2015, 2016, les attentats sont là, les Hollandais prennent peur, ils ne viennent plus,
oui.
Et là, il faut se retrousser les manches. Mais il y a aussi cette barrière des langues. Quand on fait visiter, vous me le disiez dans une émission, quand vous dites, oui, c'est bien, le parapente, l'escalade, les randonnées, c'est bien, mais aller faire raconter une histoire, il y a aussi la barrière de la langue. Comment on s'en débrouille de ça ?
Alors, d'une part, on a des étrangers qui habitent la Bigorre. Voilà. Et donc, il faut se servir aussi de ce réservoir qui est très, très important. Et puis après, on est allé à la CCI et puis on s'est formé. Et puis, je crois, dans la à partir du moment où on a envie de communiquer, on trouve les mots. Voilà. Lourdes s'est formé pour l'italien, s'est formé pour d'autres langues aussi. Et donc, a réussi de s'adapter point de vue locaux, mais aussi point de vue relation humaine, et voilà, donc cette relation humaine, c'est propre à Lourdes de par ses qualités catholiques, on va dire, c'est, ouais. Pour moi c'est intrinsèque, quoi, et donc ils ont toutes les capacités, après avoir acquis la langue italienne et d'autres compétences, de trouver à diversifier leur clientèle.
Le pape a fait une encyclique Laudato Si, hein, sur la nature, sur la protection de la nature. Nous sommes à Lourdes, bien sûr, vous l'avez dit, hein, hautement catholique, où les gens viennent faire des pèlerinages, viennent remercier ou faire des demandes à la Vierge Marie. Est-ce que vous pensez qu'on peut, dans un futur proche, cumuler les deux, c'est-à-dire aussi quand les gens viennent à Lourdes, ils ne viennent pas que à Lourdes toucher un rocher ou faire une prière, il faut aussi qu'ils prennent en considération ce lieu, cette histoire et ce pays, l'histoire de ce pays.
Oui, à un moment donné, il y a eu une adaptation des Lourdais vers une industrie du bus, où on est allé en bus à Gavarnie. En
Espagne.
Voilà, on a touché la nature, voilà quoi. Et moi, je pense que la proximité, le Puy du Gers, le Puy Vest, c'est quelque chose de une attente aussi des clients, même des personnes qui viennent chercher la spiritualité, quoi. Voilà quoi, donc c'est tout à fait possible. Ouais.
Mais aujourd'hui, on sait très bien que le pèlerinage organisé, c'est un emploi du temps assez militaire, où on arrive tel jour, on a telle procession, telle messe, telle prière, tel groupe de où ils parlent, et puis ils repartent. Comment on peut arriver à convaincre ces directeurs de pèlerinage à travers aussi cette encyclique Laudato Si, de dire attention, vous venez à Lourdes, effectivement, la Vierge Marie, pour ceux qui y croient, est apparue à Bernadette, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Vous êtes dans un pays. Bernadette était de ce pays. Il faudrait leur raconter ce pays.
Oui, je pense que la prière, pour moi, c'est aussi la contemplation de la création. De la création de Dieu, quoi. Voilà, c'est ça. Et là, ça nous saute à la vue, quoi. Je veux dire, quand on est à Lourdes et puis qu'on voit le massif du Puy Vest, ça nous saute à l'œil, quoi. Je veux dire, comment les convaincre ? Mais c'est ça. Voilà, c'est en parlant de la prière contemplative, quoi. Voilà. Remercier de la création, voilà. C'est remercier Dieu de la création. Pour moi, c'est ça.
Et du travail.
Non, je pense que c'est de la façon, c'est intrinsèque à Lourdes, ils sauront se relever largement. J'ai vraiment foi à ça, parce qu'ils se sont déjà adaptés à différents pèlerinages. Voilà, il y a eu le pèlerinage des motards, mais il a fallu s'adapter aux motards. Ils ont su s'adapter. Voilà, il y a eu un besoin de faire autre chose que le pèlerinage. Ils ont su aller à Gavarnie ou sur les grands spots touristiques régionaux, quoi. Donc voilà, il y a des choses vraiment simples. Aller rencontrer les hommes et les femmes bigourdants qui ont des choses à raconter. Et puis contempler la nature très proche, quoi.
Ouais. Voilà. Et il y a des jolis coins de vue en haut du Puy Vest.
Du Puy du Gers aussi.
Du Puy du Gers. Oui, on voit toute la chaîne des Pyrénées en haut du Puy du Gers. C'est magnifique. Ouais.
On peut y aller à pied.
On peut y aller à pied.
En funiculaire aussi, mais à pied.
Mais funiculaire, mais à pied. Ouais. Voilà. C'est pas très très dur, hein, le Puy du Gers. Le Puy Vest peut-être un petit peu plus, non ?
En fait, on parle toujours de sommet. Pourquoi ? Parce qu'on est montagnard. Et quand on est montagnard, on ne voit pas le lever de soleil et le coucher de soleil. Voilà. Et quand on est dans la vallée, on veut arriver au sommet. Mais en fait, pour les touristes, aller au bois de Lourdes, par exemple, eh bien, c'est une découverte qui ne demande pas beaucoup d'efforts. Et qui est extraordinaire.
Mais il faut être accompagné quand même. Parce que lorsqu'on se balade dans une ville, quelle qu'elle soit, historique, si on s'y balade seul, on peut passer à côté d'une maison dont on ne connaît pas l'histoire.
Mais il y a tout plein de guides. Il y a les accompagnateurs de montagne que je parlais. Il y a les guides culturels qui racontent l'histoire et la culture du pays. Et il y a les guides culturels aussi. Moi, je sais que dans mon village, il y a des personnes, des chrétiens, qui peuvent faire visiter des églises, quoi, voilà. Et parler de leur foi tout en faisant visiter le village, quoi.
Voilà, et raconter l'histoire du village.
Hein. Mais voilà, c'est tout simple. On revient aux expériences qu'on propose dans notre établissement.
Est-ce que vous avez des expériences, vous, vous qui êtes à la contact de ce tourisme-là, où vous allez faire, vous l'avez dit, des salons, est-ce que vous avez des histoires de départements où il n'y a pas forcément, comme dans les Hautes-Pyrénées, ce Lourdes, hein, qui est quand même, lorsqu'on parle des Hautes-Pyrénées, on parle de Lourdes, et qui s'en sortent plutôt bien à travers ces expériences-là, des départements ruraux, des...
Moi, je vais pas aller trop loin. Je peux parler de la réserve naturelle de Lons, où ils ont vu que les paysans dans leur village allaient disparaître. Ils ont questionné les paysans. Ils ont dit, voilà, est-ce que vos enfants vont reprendre, voilà. Et qu'est-ce qu'ils ont fait avec 50 habitants? C'est dans notre département, hein, c'est une autre réserve naturelle régionale. Eh bien, ils ont construit des bâtiments municipaux pour pouvoir accueillir des paysans sans terre. Actuellement, à Lons, 50 habitants, il y a des paysans qui font du fromage et qui ne sont pas issus de familles de paysans, quoi. Il y a une maison de la nature pour 50 habitants. Alors,
c'est une sorte de micro-entreprise.
Non, mais je vous prie de croire ouais. qu'à Lourdes, on a tous les moyens, à la fois financiers et humains, pour relever la tête, quoi. Quand on a cette expérience de vie-là, quoi. Voilà.
Et vous qui avez eu l'expérience d'être président de deux grandes structures, vous me disiez qu'il était plus facile d'avoir des subventions pour un bâtiment que pour des hommes, pour le faire vivre.
Mais je pense que c'est français, c'est européen. On ne mise pas sur les hommes. On est la plus grande réserve naturelle régionale de France continentale. Mais si on n'avait pas les stagiaires, comme dans les hôpitaux actuellement, si on n'avait pas les étudiants, eh bien, l'hôpital ne fonctionnerait pas. Eh bien, pareil pour la réserve. Voilà, on mise sur des structures. Et c'est une ligne de comptable qui est différente de celle des salaires. Et on baisse plutôt, on compresse les salaires, mais on est capable de faire des lignes. On refait un bâtiment, voilà quoi. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait des hommes et des femmes qui puissent vivre en bigorre de leur passion, de leur métier, de leurs compétences, plutôt que de réduire les budgets humains, quoi. Pour moi, c'est important.
Mmh. La nature, c'est vraiment pour vous quelque chose d'important. On en parle déjà depuis deux émissions. Ce que je propose, Luc Ducerme, c'est de nous retrouver la semaine prochaine. La semaine prochaine, on parlera exclusivement de cette aventure de votre camping. Aventure familiale, avec ces transformations que vous avez opérées. Et comment aujourd'hui se porte votre camping. D'accord. On en parle avec vous d'ici donc la semaine prochaine. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, Philippe.